Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de l'impact de naître dans un monastère bouddhiste, de devenir lama, la plus jeune lama occidentale à 19 ans? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hermès Garanger. On va évidemment parler de spiritualité. On va parler surtout de la manière dont elle envisage le monde, dont elle envisage aussi le développement personnel, dont elle envisage la manière dont la société évolue. On va parler de sa vie, de la manière dont elle a pu s'élever au fur et à mesure des années, comment elle a été aussi très différente quand elle était jeune, et qu'est-ce que ça a comme impact, et comment ça a impacté sa vie. Bref, plein de sujets autour évidemment de la spiritualité, du bouddhisme, de la manière dont les femmes sont acceptées dans cette culture, dans la manière dont les femmes sont acceptées en général. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hermès.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, super, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Peut-être que la première question, parce que moi, ce qui m'a... Ça va être stupide, mais en même temps, ça m'a marqué. Ce prénom Hermès, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, mes parents s'étaient dit, pourquoi pas Hermès comme le messager des dieux. Mmh. Et le fait que je sois née dans un monastère bouddhiste tibétain, ils se sont dit, ça pourrait être la messagère des lamas tibétains. Voilà. Wow. Donc, le prénom a été assez... trouvé assez rapidement, finalement.
Et est-ce que ça a été un poids pour toi, d'une certaine manière, d'avoir ce prénom qui est fort en signification, quand même?
Mais c'est vrai que petite, à l'école, en plus, en Bourgogne, dans un petit village de 50 habitants, quand tu arrives à l'école et que tu dis tu t'appelles Hermès, au début, c'est « Ah bon, Hermès, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ?» En grandissant, c'est forcément Hermès, la marque.
Bien sûr.
Donc, le carré, Hermès, le foulard, le... Voilà, mais finalement, c'est quelque chose que... Enfin, je trouve que ça, c'est un prénom original et qui me correspond bien. J'aime cette originalité.
Mais la mission de vie qui a été associée au prénom, elle t'a pas pesé à aucun moment?
Ben non, je l'ai su sur le tard, tu vois. On ne demande pas forcément à ses parents quand on est petit, pourquoi, quoi, comment. Mais c'est vrai que adolescente, j'ai dit, mais finalement, pourquoi Hermès? Et puis, j'étais déjà dans ce chemin spirituel.
Oui.
Voilà, donc ça ne m'a pas pesé, mais quelque part, c'est presque comme un rappel de dire, tiens, la messagère des lamas tibétains.
Qu'est-ce que... Je pense que quand on t'entend, on se demande à quoi ça ressemble de grandir dans un temple... C'était en France, on est d'accord,
oui.
mais quand même dans un ensemble tibétain, c'est étonnant. Et surtout, c'est une enfance très particulière, j'imagine.
Alors, c'est sûr que c'est une enfance complètement atypique et... Bah surtout, il faut remonter 40 ans en arrière et de se dire, mes parents étaient en Bourgogne, on trouvait ce terrain et ont acheté ce terrain et ce château pour offrir aux lamas tibétains.
Ah donc c'est leur démarche à l'origine.
Exactement, oui, d'accord, tout à fait. Et donc en 74, ils sillonnent la France, ils achètent un petit château avec un terrain en Bourgogne pour l'offrir à un maître tibétain rencontré en Écosse. Et finalement, moi, j'ai grandi dans ce monastère, donc la journée à l'école du village, mais le soir, quand je rentrais, c'était dans cette forme de communauté avec des lamas tibétains, des lamas qui venaient aussi du Bhoutan. Donc, c'est vrai que j'ai eu une enfance assez atypique. entre les chants tibétains dans le temple, les cours avec tous les enfants d'agriculteurs au collège. Donc c'était complètement surréaliste. Et c'est vrai que le lundi, quand j'arrivais à l'école, je disais, tiens, ce week-end, j'ai vu le Dalai Lama ou j'ai vu tel maître. Et eux m'ont raconté qu'ils avaient fait la moisson, les vendanges. Donc voilà, c'était complètement surréaliste et en même temps une enfance incroyable.
Mais ça ressemblait à quoi ? Enfin, je me pose une question parce qu'effectivement, avec le regard d'aujourd'hui 2024, où on parle beaucoup de méditation, de yoga, etc. Mais il y a 40 ans, c'était pas du tout ça en fait. Tes parents étaient très en avance finalement. Oui. Et je me demande à quoi ça ressemble de grandir dans un espace. Alors, il y a évidemment pas. Il y a sans doute un côté par rapport aux autres enfants, parce que j'imagine qu'il y a sans doute dû avoir du bullying d'une manière ou d'une autre, et peut-être pour toi une volonté d'être normal, je sais pas, mais c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Parce que tu grandis aussi avec des adultes, du coup, enfin, oui, par définition, c'est quoi les impacts pour toi en termes de, enfin, de sur ton enfance finalement?
C'est vrai que de grandir dans cette communauté, ce monastère en Bourgogne. D'un côté, je suis entourée donc d'adultes où il y a d'autres familles avec des enfants, mais vraiment les enfants à temps plein, ça va être mon petit frère et moi, et on va être cette première génération d'enfants de bouddhistes, on va dire. Mes parents ont fait partie des premiers Français à implanter le bouddhisme en France. Donc quelque part, c'était une nouveauté, et ce couple qui arrive avec le bébé en Bourgogne quand ils achètent le terrain. Quand ils commencent à dire que ça va être pour faire un temple bouddhiste tibétain et qu'ils vont recevoir des lamas, forcément les fermes aux alentours se disent « c'est quoi cette secte ? Qu'est-ce qui va se passer ?» etc. Ça. Et c'est vrai que quand j'arrive à l'école, forcément c'est « on touche pas la bouddhiste parce qu'elle va nous contaminer ». C'était des mots assez durs, les bouddhistes, espèce de bouddhin, t'es bouddhiste. Donc moi, pour me défendre, je disais espèce de chrétien, espèce de crétin. Il y avait une forme de non, chacun défend ses positions, et il y avait pas une grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quand je disais en début d'année où est-ce que tu habites et qu'est-ce que font tes parents, j'habite au temple ou au monastère et mes parents sont les fondateurs d'un temple bouddhiste. Forcément, ça dénote un petit peu avec les enfants du village qui sont agriculteurs, et donc j'étais assez rejetée petite, assez.
Et comment t'as pu gérer ça petite? Enfin, c'est étonnant aussi, enfin, parce qu'il y a tes parents et les lamas et qui t'amènent beaucoup de sagesse, j'imagine, même quand tu es petite. Enfin, je suppose, en fait, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est une question, en termes d'éducation, il doit y avoir des impacts nécessairement, même avant que tu fasses toi-même ta retraite. Et comment tu gères ce rejet de la population, entre guillemets ?
Bah, quelque part, je vais à l'école parce qu'il faut aller à l'école, mais c'est pas là où je m'épanouis du tout. Par contre, quand je rentre au monastère le soir, je participe aux cérémonies, aux arts, j'apprends tous les instruments de musique tibétains, donc une dizaine d'instruments de musique, je participe aux peintures, à la décoration du temple, etc. Il va y avoir des années de construction d'un des plus grands temples tibétains en Bourgogne. Donc c'est vraiment là où je m'épanouis. Mais en même temps, d'aller à l'école avec ces valeurs de bienveillance, d'humanité... J'aime pas vraiment l'école, mais en même temps, je sens que de partager ce que je vis avec mes yeux qui brillent en disant j'ai vu tel lama, j'ai entendu ça comme enseignement, etc. Je partage mon enthousiasme, ma passion, mon côté positif, et je crois que ça l'emporte sur les moqueries, sur la méchanceté. Et petit à petit, on va dire que vers le CM1, CM2, je commence à renverser la tendance. La tendance s'inverse et il y a une forme de curiosité. Et finalement, quand j'arrive au collège, le proviseur invite des lamas tibétains à venir donner des conférences dans le collège pour essayer d'ouvrir un peu les esprits. Et puis après, on me voit à la cantine au collège. Je suis la seule végétarienne sur 400 enfants. Donc j'ai une espèce de dérogation où on accepte que je ne mange pas de viande, donc je suis surtout obligée de la prendre, mais je dois la donner à un camarade qui va s'asseoir à côté de moi. Donc j'ai tous mes potes le midi qui veulent manger à côté de moi pour avoir ma viande. Donc il y a une forme d'ouverture d'esprit, de tolérance. J'ai le droit de ne pas assister aux cours de biologie où on va disséquer les grenouilles, etc. Donc maintenant, toi, la bouddhiste, tu peux ne pas assister à ça. Donc il y a une forme d'ouverture d'esprit à partir du collège.
Mais le proviseur, ouais, il était déjà un peu avancé parce qu'il a accepté ta différence d'une certaine manière.
Mais il a tellement bien accepté qu'à un moment donné, j'ai demandé en quatrième d'arrêter l'allemand pour faire du tibétain et il a accepté.
Oh, waouh!
Donc j'apprenais le tibétain au monastère et j'ai pu arrêter l'allemand pour la troisième.
Excellent. Quel regard tu portes sur l'éducation aujourd'hui, justement, notre système scolaire?
Oh là là, il y aurait tant à dire. J'ai l'impression qu'on met tous les enfants dans le même moule, avec cet esprit de compétition, de les comparer. Et si tu ne fais pas telle étude, bah, tu n'y arriveras pas dans la vie. Enfin, je trouve qu'on ne les pousse pas avec un côté de bienveillant ou positif. On va toujours montrer le « t'es pas comme ci » ou « t'es pas assez ça » ou sur une copie, on va commencer par le truc négatif. « Peut mieux faire, peut si ». Et je ne suis pas d'accord vraiment avec cette forme d'éducation. Et le côté, seuls les enfants qui font des études vont y arriver. Moi, je suis la preuve, on va dire, entre guillemets, que ben, j'ai arrêté mes études à 15 ans et demi, et je suis rentrée en retraite. Ensuite, je suis partie 3 ans en Inde, et je suis revenue, et j'ai passé mon bac à 22 ans. Donc, il n'y a pas forcément un schéma tout tracé. Si tu ne fais pas tes études, tu n'auras pas un bon métier. Ben, peut-être que si tu arrêtes, tu fais ça et que tu reviens après, ben, tu peux y arriver aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément les études qui te rendent heureux dans la vie.
Trop normatif, peut-être.
Exactement.
Ouais. Je comprends. On va forcément parler de cette retraite. Mm-hmm. Donc, tu peux nous raconter comment même c'est possible que tes parents te laissent faire ça, d'une certaine manière, de partir en retraite à 15 ans et demi. En retraite, oui, c'est une retraite de 3 ans. 3
c'est
ans,
ça, 3 ans, 3 mois, 3 jours. Donc, fermé, coupé du monde. Eux ne me verront pas et moi, je ne les verrai pas non plus pendant 3 ans. Donc, il y a une forme de dire, waouh, à 15 ans et demi, est-ce qu'on la laisse partir comme ça? Et en même temps, c'était cette retraite, j'ai toujours demandé à mes parents de la faire. Donc, ça a toujours été un oui, mais après le bac. Et sur un concours de circonstances, été 88, une des filles se désiste, et quelques jours avant l'entrée en retraite, et on me propose sa place parce que j'ai pu assister pendant 2 mois aux préparatifs de cette retraite, donnée par un maître tibétain qui venait de Darjeeling, d'Inde. Et dans ce groupe de futurs retraitants et retraitantes se trouvait une femme qui était malentendante. Et elle m'avait demandé si je pouvais retranscrire tous les enseignements pendant 2 mois, toutes les instructions qui seraient données par ce maître dans le temple. Donc vraiment, ils étaient fermés, tous enfermés dans le temple pendant 2 mois, enfin à sortir. Mais les instructions étaient vraiment entre eux, uniquement. Personne ne pouvait rentrer si tu ne faisais pas cette retraite après. Et moi, j'ai une dérogation pour retranscrire toutes les instructions pendant 2 mois. Et quelques jours avant l'entrée en retraite, elle se désiste en se disant « Mais si je suis malentendante, est-ce que ça va pas être compliqué pour moi pendant 3 ans, etc. ?» Et du coup, les lamas me proposent sa place. Alors moi, j'ai 15 ans et demi. Je sais que l'entrée se fait dans 3 jours. Donc, quand les lamas me demandent un soir, je dis « Oh oui, génial !» Mes parents m'avaient dit « Oui pour 19 ans, donc 15 ans et demi, c'est oui, pareil, etc. » Et quand je rentre à la maison, je dis « Maman, on m'a proposé ça. » J'ai dit « Oui, c'est génial, je rentre dans 3 jours. » Ma mère me dit « Attends, on va retourner voir le lama, on va voir si... tu peux pas dire oui comme ça toute seule, il faut qu'on en discute. » Et puis, voilà, il a fallu négocier avec mon papa, qui était un peu moins... qui était plus réfractaire, il était à Paris. Et quand je l'ai appelé le lendemain, j'ai dit « Papa, je rentre en retraite après-demain. » Et il m'a dit « Ah ben non, c'est impossible. » Je lui ai dit « Mais papa, ils m'ont rasé la tête ce matin, ils m'ont habillée, ça y est, je porte la tenue pour rentrer en retraite. » Et donc ma maman a réussi à le convaincre. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en seconde, j'avais commencé ma seconde par correspondance, parce que j'avais envie de faire des études qui n'existaient pas dans la région. Et donc c'est mon père qui a continué mes cours par correspondance jusqu'à mes 16 ans, puisque moi j'étais en retraite. Ah. Donc j'ai été soutenue... incroyable, j'étais au CNED, j'avais pas encore mes 16 ans, donc je pouvais pas arrêter mes études comme ça en cours de route. Donc c'est lui qui a terminé le CNED. Voilà.
C'est genre... Qu'est-ce qu'on apprend? Quel principe de vie te semble indissociable, de qui tu es aujourd'hui, qu'on apprend quand on est en retraite comme ça pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours?
On apprend tellement sur soi. En fait... quand on est en retraite, on n'a pas l'impression d'apprendre sur soi parce que c'est 14 heures de méditation par jour, 7 jours sur 7. Donc on est comme dans une machine à laver en mode essorage, on travaille sur soi, on fait à peu près 200 sortes de méditations différentes qui nous font travailler sur différentes émotions, des méditations qui nous font travailler sur la colère, la jalousie, l'attachement, la saisie, l'ego, toutes sortes de choses un peu qui pourraient déranger. Et puis d'autres méditations sur la bienveillance, la patience, la générosité, la beauté du monde, la contemplation, la satisfaction, le contentement, enfin plein de belles valeurs. Donc quand on travaille comme ça pendant 3 ans, on se dit waouh, est-ce que la méditation a des réels bienfaits ou parce que là je suis tellement en train de travailler sur moi que j'ai absolument aucun recul finalement sur ce que je suis en train de faire. Et c'est souvent après la retraite, dans des situations de vie de tous les jours, on se rend compte qu'on réagit complètement différemment, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de discernement, plus de clarté, peut-être moins de saisie, moins d'attachement. Une approche complètement différente des émotions. Mmh. Quand une émotion s'élève, de dire « tiens, là j'éprouve de la jalousie ou quelque chose par rapport à une situation, ok, pourquoi j'éprouve ça ?» D'où ça vient? Est-ce que c'est un manque de confiance en moi? Pourquoi je suis jalouse ou jaloux de cette situation? Mais d'où ça vient? Ou la colère? Pourquoi cette situation me met en colère? Donc je pense que d'avoir travaillé comme ça sur moi, adolescente, ça permet après de se construire en tant que jeune adulte et adulte, et après maman, etc., d'une manière assez différente.
Et est-ce que En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est-à-dire que les émotions sont là, c'est-à-dire que la colère, ce que tu disais en tout cas, la jalousie, elles sont toujours présentes en fait, elles s'en vont pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es lama aujourd'hui que en fait tu n'as pas ces émotions. Simplement, tu as une capacité de les canaliser, sans doute de manière déjà de les observer, sans doute. Donc d'en avoir conscience, les observer, et du coup sans doute de les retenir autant que possible. Et si ce n'est pas les retenir, au moins les canaliser.
Mais l'idée, c'est qu'elles ne t'abîment pas au passage. Mmh. Tu peux éprouver de la colère ou par rapport à une injustice. Ce qui peut me mettre en colère, c'est la violence faite aux femmes, faite aux enfants, faite aux animaux, ce qu'on fait à la planète. Donc il y a une forme de « waouh », quand je vois des choses qui m'affectent ou qui me font de la peine, où je me dis « waouh, comment on peut faire ça ? Comment l'être humain peut faire ça ?» Donc il y a cette forme de colère qui monte. Mais cette colère, tu la transformes pour la basculer en « qu'est-ce que je fais comme action ?» plutôt qu'être complètement anéanti par cette colère et de dire « waouh, je suis en colère, mais je ne peux rien faire ». Donc, à aucun moment, je vais être anéanti par mes émotions. Mais je vais dire « ok, mais transforme cette colère pour être sur le terrain, aller dans une manif, aller, je ne sais pas, voir Sea Shepherd avec Hugo Clément pour les dauphins quand ils sont posés au Trocadéro. Utilise cette colère, mais pour des belles actions et transforme-la. » Et donc, je dirais que ces émotions, tu les transformes presque comme de la compassion, finalement, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Et pareil, l'idée, c'est de ne pas refouler ses émotions, c'est de dire « ok, là, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'en colère? Et si je suis en colère, mais comment je peux mettre ça au service d'eux ?» Et finalement, je ne suis jamais mangée par ou rongée par les émotions. Ou alors, si quelque chose m'affecte, ça va un peu glisser sur moi. C'est comme si j'étais un peu comme un canard avec les plumes un peu imperméables. « Ok, il va se passer une situation. » Ça glisse sur moi et dans 10-20 minutes, le truc sera passé, ça ne rentre pas en moi. Mmh. Et donc ça, c'est quand même pas mal d'être préservé de tout ça.
À quoi ça ressemble? Parce que quand on dit, c'est 16 heures de méditation par
14
jour
14 heures,
14 heures. Ouais. Comment c'est rythmé? À quoi ça ressemble? Parce que en fait, quand on ne vient pas du tout de ce milieu, qu'on a même pas fait une retraite Vipassana, comme c'est mon cas. Mm-hmm. Même Vipassana, j'ai pas fait. Donc, même 12 jours, tu vois, j'ai pas fait. Mm-hmm. On se dit, mais waouh, comment déjà je peux rester assis ou assise pendant aussi longtemps? Mm-hmm. L'ennui, le fait d'être coupé. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, mais elle s'est complètement coupée de son adolescence. Elle a raté une énorme partie de sa vie. Il y a plein de remarques comme ça qui doivent remonter dans
j'en
la
ai tout le temps.
J'imagine, bah, j'imagine, bien sûr.
J'en avais beaucoup plus en sortant de retraite. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, On me dit, ah non, en fait, elle n'a pas du tout raté son adolescence, et c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi, surtout étant maman maintenant et d'une adolescente qui a 17 ans. Je vois ce monde de l'adolescence, ce monde un peu des jeunes adultes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont perdus ou qu'est-ce qu'ils sont... Ils sont en train de se chercher, de ne pas savoir dans quelle voie s'orienter, etc. Et moi, j'ai eu cette chance, adolescente, de travailler sur moi, d'aller jusqu'à l'essentiel, de donner un sens à ma vie et après de construire sur cette base de la retraite des choses solides tout au long de ma vie. Et je trouve que la base, elle est, quand elle est solide, tu peux construire n'importe quoi dessus. Mmh. Donc ça, je remercierai jamais mes parents de m'avoir offert ce cadeau, de pouvoir faire cette retraite si jeune. Après, c'est vrai que 14 heures de méditation par jour, ça commence le jour où les portes se ferment. Donc il n'y a pas, tiens, le premier jour, on commence avec 2 heures, puis 4. Non, c'est 14 heures. Le premier jour, ça commence. La première session commence à 4 heures du matin. Donc tous les jours pendant 3 ans, 7 jours sur 7. Donc la première séance est sonnée par le gong. Donc à tour de rôle, on va pendant 15 jours être la personne qui va rythmer les journées avec un gong. Donc de 4 heures à 6 heures, la première séance. Après, on a une demi-heure de battement. Et puis après, de 6h30 à 8h30, et puis etc. Donc toute la journée va être rythmée comme ça par des séances entre 2h et 2h30. Et avec un tout petit temps le matin pour le petit déjeuner, donc chacune chez soi, le midi chacune chez soi, ou enfin chacune se fait à manger, le soir pareil, et deux rituels en commun dans le temple. Donc il y a un tout petit temple à l'intérieur de l'enceinte où on se retrouve le matin et le soir. Et la journée, on peut se croiser dans le petit jardin, comme une petite enceinte de 200 mètres carrés à peu près. Qui est fermée par des immenses palissades en bois. Donc chacune vit dans une petite cellule de 9 mètres carrés, les unes à côté des autres. Et au milieu, ce petit jardin qui nous permet d'aller dans le temple, dans la salle de yoga ou dans la salle de bain. Mais c'est vrai que ce qui manque, c'est cette visibilité sur ne serait-ce que la forêt ou la nature, c'est le monde extérieur. Donc pour moi, c'était la forme de distraction, c'était de regarder le ciel, parce que c'était le seul moment où je peux me dire, tiens, mon regard est illimité. Enfin, je veux dire, il n'est pas coupé par cette palissade en bois, et je regarde à droite, à gauche, et mon champ de vision était en permanence réduit. Et d'aller s'évader en regardant le ciel, c'était un moment de liberté incroyable.
Mais parce qu'en fait, je me dis, surtout quand on a 17 ans, je veux dire, c'est vrai à tout âge de la vie, mais... On a cette énergie de vie qui est incroyable, on a envie de faire des bêtises, on a envie de faire plein de choses, de découvrir en réalité, et de s'auto-enfermer pendant aussi longtemps. J'ai du mal à saisir comment tu traverses ça en fait quand t'es adolescent. C'est vraiment quelque chose qui me... Tu vois, ça me perturbe, je dis mince, c'est tellement difficile.
Alors après, moi je suis née dans un monastère.
Oui.
Donc j'ai pas du tout ce côté, je n'avais pas du tout ce côté un peu foufou, machin. J'étais vraiment toujours très curieuse d'apprendre le tibétain, de méditer, de attirée par la spiritualité. En même temps, avec une joie de vivre incroyable, parce que mes profs, quand j'étais en CM2, le prof m'appelait Joie de vivre. Et il ne connaissait même pas mon prénom toute l'année. C'était « Bonjour, Joie de vivre ». Tous les matins, il nous serrait la main quand on rentrait dans la classe. « Bonjour, Joie de vivre ». Donc j'avais ce côté hyper enthousiaste, mais qui venait forcément de ma vie au monastère. Et le fait de pouvoir vivre ce qui t'anime depuis petite, de pouvoir le vivre pleinement en retraite, de te réveiller pour méditer, pour apprendre à travailler sur toi, c'est quelque chose. C'est comme, j'imagine, un sportif qui est passionné par son sport. Quand tu lui dis t'arrêtes l'école et tu vas faire que du tennis, ou il y a un moment waouh, tu fais yes, ou un chanteur ou un musicien, tu dis ok, tu vas faire de la musique 10 heures par jour. J'imagine que la personne, elle s'éclate dedans. Enfin, en tout cas, si c'est pas ta passion, c'est compliqué.
C'est
mais
dommage.
Voilà. Mais moi, j'ai jamais ressenti l'ennui pendant 3 ans. Au contraire, c'est de se lever pour méditer. Tu dis waouh, c'est tu te découvres des richesses intérieures, un monde intérieur. C'est quelque chose qui peut pas être, c'est indescriptible. On peut te raconter la méditation, c'est ça, ça, ça. Mais quand tu le vis vraiment, tu découvres des choses. Tu dis mais ça. Tu peux pas le lire, enfin tu peux le lire dans un livre, mais
c'est pas pareil.
C'est que tu as vraiment besoin de l'expérimenter. Et plus tu l'expérimentes, et plus t'atteins un niveau d'espèce de conscience ou de indescriptible.
D'ailleurs, comment tu regardes l'essor des livres autour du yoga, de la méditation et de manière plus générale du développement naturel, personnel, pardon. Je serais très curieux de voir comment toi tu regardes toute cette tendance d'une certaine manière.
On va dire c'est un peu un business. Souvent, moi, j'appelle ça un peu le business méditatif où il y a vraiment à boire et à manger. Mais comme dans tout, hein, c'est pas que sur la méditation. Tu as parlé de yoga aussi. Un prof de yoga qui lit les bouquins, il peut dire que celui-là est bien et celui-là, et tout le reste, c'est du marketing ou du business. De la même manière que moi, quand je vois un livre sortir sur la spiritualité, la méditation, tu dis, OK, il y a des vrais auteurs et des vraies personnes qui ont expérimenté des choses fortes et profondes comme Mathieu Ricard ou comme des grands maîtres tibétains qui écrivent des livres. Et puis après, tu as le côté business occidental, une personne qui va aller faire 10 jours de vipassana ou 10 jours de silence et qui va écrire des livres et qui va faire des conférences en disant j'ai fait 10 jours de silence et de méditation, je fais ouais, and so what, tu vois. Donc, si la méditation ne déteint pas sur ta vie et qu'elle n'a pas transformé tes actes du quotidien, pour moi, c'est juste, c'était bien pendant 10 jours, c'est bien, t'as médité, t'étais en silence pendant 10 jours. Mais quel est l'effet sur ta vie de tous les jours? Est-ce que t'as changé tes choses? Est-ce que t'as changé ton quotidien? De la même manière que la pleine conscience, on voit beaucoup de choses dans les magazines sur la pleine conscience, c'est un peu la mode et tout ça. Et tu dis, OK, c'est le fait d'être pleinement conscient, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Est-ce que ça change au niveau de tes actions, de tes actes, parce que c'est facile de dire je suis pleinement conscient, mais ok, quand tu manges de la viande et ce que tu as dans ton assiette, tu es pleinement conscient que c'est la souffrance animale, mais est-ce que tu continues d'en manger, est-ce que tu en manges moins, ou est-ce que tu en manges autant, et oui, je suis pleinement conscient que c'est de l'animal, mais j'en mange pareil. Ben non, donc ça veut dire que pour moi, il n'y a pas un réel impact si tu ne changes pas des choses dans ton quotidien.
Quels sont les... J'aime pas l'idée de conseil, parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu compliqué de donner des conseils aux gens, mais les 3-4 guidelines, peut-être, que les gens devraient emporter avec eux. Moi, je pense qu'on est dans un monde très incertain, très compliqué, complexe, en réalité. Pour les gens qui nous écoutent, c'est difficile, en général. Comment tu retrouves cette harmonie intérieure? Comment toi tu le fais et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent? 3-4 conseils, je ne sais pas si c'est des conseils, phrases peut-être, qui pourraient les aider.
Alors, c'est vrai que dans le bouddhisme tibétain, on a tendance à dire sans espoir ni crainte. Et c'est une phrase qui m'accompagne dans le sens, on a toujours l'espoir de, j'espère que ou j'attends que pour avoir ça ou ça ou ça, ou je crains, on est dans la peur. Et d'être dans cette phrase sans espoir ni crainte, j'ai pas l'espoir de comment dire, par exemple quand je monte sur scène avant une conférence, si je me répète la phrase sans espoir ni crainte, j'ai pas l'espoir de convaincre toute la salle, mais j'ai pas peur, je crains pas non plus de décevoir. Et d'être dans cette phrase, c'est un juste milieu, pour moi c'est presque une phrase méditative, d'être sans espoir ni crainte, mais juste être et faire les choses avec une motivation pure, sincère, profonde. Mais finalement, quand tu travailles, tu n'es pas dans l'espoir que ton patron il va te reconnaître, te donner une prime, mais tu n'es pas non plus dans la peur d'être moins bon que les autres et de craindre de ne pas y arriver. Donc d'être sans espoir ni crainte, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort. Et après, d'arrêter de toujours penser que notre bonheur dépend des choses extérieures. C'est-à-dire, oui, mais le monde, il est compliqué. Oui, mais l'écologie est comme si. Oui, mais il y a une crise en ce moment. Oui, mais là, il y a la guerre en Ukraine. Oui, mais... Et donc, du coup, de trouver des excuses à l'extérieur pour ne pas aller bien à l'intérieur. Et je trouve que c'est un peu facile. Donc, j'aurais tendance à dire, essayons déjà de prendre du temps pour soi, de se poser, d'être un peu dans cette forme d'introspection, de trouver des richesses à l'intérieur, des ressources et des richesses à l'intérieur, et puis de les, il faut qu'elles se développent. C'est pas juste, oui, je sais qu'à l'intérieur je suis fort ou je suis comme si, et puis après de passer à autre chose. Non, essaye de cultiver tous les jours un peu plus de bienveillance. Quand t'es en colère, bah peut-être au lieu de dire tiens je suis en colère et de se laisser emporter par la colère, de dire pour contrecarrer la colère, je vais me poser 3 minutes. Penser à la personne que j'aime le plus au monde, fermer les yeux, essayer de développer cette forme d'amour, de bienveillance, d'amour inconditionnel, et plutôt que courir après ou se faire écraser par la colère, développer quelque chose comme sur une balance, on met la colère d'un côté, l'amour, la bienveillance de l'autre côté, cultiver ça, nourrir ça, développer ça, et puis petit à petit sentir que finalement l'amour est plus fort que la colère ou l'emporte. Donc c'est essayer de développer des choses à l'intérieur. C'est pas juste méditer, fermer les yeux et attendre que ça passe. Dans le bouddhisme tibétain, on parle de 84 000 sortes de méditations différentes. Et chaque méditation correspond à un état d'esprit, à une émotion, à une difficulté, à une souffrance. C'est pour contrecarrer les choses, pour rééquilibrer les choses. Donc on n'est pas juste assis sur un coussin et attendre que ça passe, comme les nuages dans le ciel. Ok, ça passe. Mais si, quand on est en colère, on ferme les yeux, on attend que ça passe, souvent, quand on se relève du coussin, on a cette colère encore en nous, et parce qu'on n'a pas travaillé dessus. Mais si, quand tu es en colère, tu t'assieds, tu dis « Ok, je vais penser à la personne que j'aime le plus au monde, développer de l'amour et faire naître cet amour vraiment dans tout ton être », quand tu sors, tu te relèves après 3 minutes ayant développé ça, tu n'es pas la même personne, tu n'es plus dans le même état d'esprit.
Et peut-être, je comprends tout ce que tu dis, en même temps je me dis, bon, pour les personnes qui nous écoutent, c'est sans doute un peu complexe parce qu'elles ne sont sans doute pas à cet endroit. Mm-hmm. Et par où tu commences? Je me souviens, j'avais reçu Marion Chapeau, Chapeau Dupuis. Attends,
oui.
C'est ça, hein, je ne m'entends pas. C'est
je ne sais jamais dans quel sens c'est.
Non, je sais dans quel sens, je ne suis pas sûr que ce soit Chapeau. Qui m'a dit un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, elle m'a dit en fait, aujourd'hui, il y a énormément de bouquins de développement personnel. On te dit les 4 accords Toltec, les 5 blessures de l'âme, les machins, les trucs. Il y a plein de choses.
Et tu cours après le bonheur.
Tu cours après le bonheur. Et en fait, elle, ce qu'on lui avait écrit, c'est tu prends un principe et tu t'y tiens pendant le nombre d'années qu'elle a pu cheminer. Est-ce que toi, c'est aussi des choses que tu recommandes aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est vrai que sans doute, les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément très en équilibre. Ils sont sans doute mal à l'aise, malades, dans une société qui elle-même est malade, ce qui est plutôt bon signe. Hein. C'est-à-dire que si on est bien dans une société malade, c'est toujours un petit peu bizarre. Est-ce que c'est des conseils que tu prodigues aussi, de se dire, plutôt que de vouloir aller creuser les 4 accords Toltec ou les 5 blessures de l'homme ou je ne sais quoi, peut-être concentre-toi sur un aspect et tiens-toi chaque jour?
Alors, ça peut être ça, et après, en même temps, tous les jours, on traverse des choses différentes. Une fois, ça va être travailler sur le stress, une autre fois, c'est sur la peur, une autre fois, c'est sur la colère, ou la jalousie, l'attachement. Donc, pour moi, travailler sur ces émotions, les reconnaître, savoir pourquoi tu réagis comme ça, est-ce que c'est une situation extérieure qui te fait basculer dans cet état de mal-être? Est-ce que c'est intéressant de prendre du temps pour soi et d'être dans cette forme d'introspection, ne serait-ce que 3 minutes par jour, ou en fin de journée, de faire un bilan de la journée. Et dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce que je pourrais faire ou pour améliorer ça, pour pas que ça se reproduise? Ou quel est le bilan de la journée? Et prendre ce temps-là, parce qu'en fait, du matin au soir, on est complètement, on est déjà quasiment dans la tête tout le temps, dans le mental, le mental, le mental. Et l'un de mes maîtres tibétains disait, méditer, c'est donner des vacances à son esprit. À quel moment on est ailleurs que dans la tête, dans la journée? À quel moment on est ailleurs que dans le mental? Et de se poser, de dire, ok, je prends 3 minutes en fin de journée, je fais le bilan de ma journée. Est-ce que, je me suis mise en colère aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait ça? Est-ce que j'aurais pu réagir différemment? Tiens, aujourd'hui, j'ai eu ci, ou j'ai réagi comme ça. Est-ce que je me suis excusée après? Et essayer de prendre faire une petite parenthèse de 3 minutes et de cette forme d'introspection, de pause. On ne prend jamais le temps de se poser. Mais même dans la journée, si on fait des petites parenthèses méditatives comme ça dans la journée, ça permet d'être bien les 2 ou 3 prochaines heures. C'est-à-dire que de s'arrêter 3 minutes dans la journée, de se poser, de respirer, de se dire, tiens, cette matinée, elle a été hyper agitée, est-ce que je continue l'après-midi de cette manière-là ou est-ce que je me pose? Et on fait comme un reset et pour passer l'après-midi d'une manière différente. Parce que finalement, une fois qu'on est pris dans l'engrenage, on a l'impression que la journée, on est métro, boulot, dodo, et après, alors que je vis à Paris, mais je ne ressens pas du tout le stress de Paris.
Ah non ?
J'adore Paris, j'adore cette ville.
D'accord.
Parce que je me sens jamais prise dans cette forme de stress, de tsunami, de stress ou de vie active. Voilà. J'ai toujours l'impression de... Je surfe sur la vague.
Tu prends la hauteur.
Voilà. Et il y a parfois, tu tombes de ta planche un peu, tu surfes dessus, tu remontes. Mais l'idée, c'est d'apprendre à s'adapter, à se réadapter, à se relever et à rebondir.
Qu'est-ce qui se passe pendant 2 heures quand tu médites ? Parce que, enfin... Moi, ça m'arrive de méditer 15 minutes, une demi-heure parfois. Mais souvent, on a plein de pensées qui passent.
Bien sûr.
Alors, souvent, moi, j'ai cru au début, d'ailleurs, qu'il fallait... Bon, quand je me suis mis, c'était il y a plus de 10 ans, il faut essayer de penser à rien. Et en fait, j'échouais, par définition. Mm-hmm. Et donc, à chaque fois que je pense à quelque chose, bon, non, ça ne marche pas, j'y arrive pas. Je ne suis pas fait pour ça, en fait. Et je crois que c'est une erreur profonde de croire qu'on peut ne penser à rien. Je serais très curieux d'avoir ton point de vue aussi, si tu peux donner des conseils peut-être sur les gens qui nous écoutent pour méditer, parce que la méditation, peut-être tu peux nous les expliquer aussi, ça a énormément de bienfaits au quotidien pour les gens.
Alors dans le bouddhisme, on dit, le verbe méditer, ça veut dire entraîner son esprit à changer nos habitudes, à changer nos émotions, à changer notre point de vue, donc s'entraîner à. Donc tous les jours, le fait de méditer chaque jour, je continue à m'entraîner comme un sportif qui continue à taper dans la balle comme Nadal, il est champion, mais il continue à s'entraîner. Et finalement, l'entraînement n'est jamais fini, on peut faire ça toute sa vie. Et s'entraîner à... C'est comme une forme de gymnastique, c'est une gymnastique, on va dire, de l'esprit. S'entraîner à réagir d'une manière différente. Mais méditer, c'est pas effectivement, comme tu l'as dit, s'asseoir et attendre que ça passe. Parce que sinon, si tu prends la méditation comme une forme de relaxation, autant aller se faire masser ou au spa, au moins t'as rien à faire, on s'occupe de toi et c'est parfait, ça te demande aucun effort. Sauf que la méditation, bien sûr que ça te demande des efforts. C'est une forme de gymnastique où tu fermes les yeux, tu peux te concentrer sur un support extérieur, un paysage, une photo, quelque chose qui t'inspire, ou la respiration, ou une visualisation, quelque chose d'intérieur. Mais ton esprit va tenir quelques minutes et il va être un peu comme un singe qui va repartir de branche
en
branche.
Bien sûr,
bien sûr. Tu rattrapes le petit singe qui est agité, tu le reposes et 3 secondes après, dès que tu vas le lâcher, il va repartir. Donc ton esprit, il est complètement agité. Mais le fait de t'entraîner, déjà de voir que le petit singe, il s'en va... Tu le ramènes, donc peut-être au début, il va rester 30 secondes, et puis il va repartir, puis après, il va rester peut-être 2 minutes. Et plus tu vas l'entraîner, et plus tu vas réussir à méditer d'une manière concentrée. Donc au début, tu vas commencer à méditer, et 10 secondes après, tu vas être en train de faire ta liste de courses, ou les devoirs, sans t'en rendre compte, c'est déjà en train de faire la liste, des carottes, de la lessive, etc. Oula, je suis en train... Donc tu ramènes ta concentration, et puis 3 minutes après, ça va repartir sur autre chose, tu vas entendre un bruit, hop, tu vas repartir. Mais plus tu vas t'entraîner, et plus les temps de concentration, de clarté, de limpidité, de prise de recul, de prise de hauteur, vont durer longtemps. Et avec l'entraînement, tu te rends compte que tu peux méditer peut-être 1 heure, 2 heures, comme ça, dans une forme d'état d'esprit où tu es... comme si tu avais changé d'état de conscience. Tu as pris de la hauteur et il y a une forme de liberté, de légèreté, de clarté. Ton esprit, il est limpide. C'est-à-dire, il n'y a plus cette liste de courses. Et même si à un moment donné, tu étais un peu distrait, hop, tu ramènes tout de suite. Et en claquant des doigts, presque, en une seconde, hop, et tu repars dans cette clarté. Mais ça te repose, ça te... Waouh,
C'est quoi les bienfaits de la méditation ?
Alors, les bienfaits, il y en a plein. Et encore, je dirais, il ne faut pas méditer pour les bienfaits. C'est un peu comme tu dis tout à l'heure, développement personnel, les bouquins, les machins, les gens ont l'impression, tu culpabilises presque de ne pas y arriver, ou tu es frustré parce que tu n'arrives pas à obtenir le bonheur, tu n'arrives pas à être comme si, ou comme le livre t'a expliqué qu'il faudrait être comme ça. Non. Donc là, l'idée, ce n'est pas je m'assieds, je médite pour obtenir ci ou obtenir ça. Tu médites. Et puis, les bienfaits, s'ils arrivent, tant mieux, sans espoir ni crainte. Mais tu n'espères pas avoir ça, ça, ça.
D'accord.
Sinon, tu es dans cette forme de saisie et d'attachement, tu sais. Je médite pour saisir ce bienfait-là. Donc non, tu peux méditer et il va y avoir forcément des bienfaits. plus de clarté, plus de concentration, plus de mémoire, un meilleur sommeil, une meilleure approche des émotions, plus de patience. Tu peux développer la générosité, la bienveillance envers soi, envers les autres, envers les animaux, envers l'environnement. Changer ton quotidien, c'est-à-dire que plus tu médites et plus tu prends conscience des choses et tu dis, tiens, est-ce que manger ça et ça, est-ce que c'est vraiment un acte bienveillant ou pas? Est-ce que prendre l'avion, c'est bienveillant ou pas? Et donc, il y a une forme de prise de conscience.
D'accord. Et comment tu regardes, toi, des gens qui en font un business? Je pense en particulier à...
Est-ce que tu vas donner des noms?
Je vais donner un nom, mais un nom américain, donc c'est pas très grave.
Okay.
Jay Shetty, tu vois, qui a passé, je crois, un an dans un temple et qui est, voilà, une superstar des réseaux, superstar d'Instagram, superstar aux US de manière générale, qui n'est pas lama, si je ne me trompe pas, parce qu'il a passé que un an, donc il n'a pas pu devenir lama, et en fait, qui se présente comme un moine. Mais il a passé un an, c'est beaucoup, et en même temps, c'est très peu.
Ouais.
Et je voudrais savoir comment toi, tu
observes. Oui, et en même temps, tu dis, t'as passé un an, mais on ne sait pas ce qu'il a fait pendant un an.
Et puis voilà, c'est ça.
Donc si pendant un an, t'es dans un lieu et tu dors toute la journée, ou tu lis des BD, etc., ça ne veut rien dire.
Exactement.
Donc moi, je ne peux pas juger, j'étais pas avec cette personne.
Bien sûr, bien sûr.
Mais je ne sais pas ce qu'il a fait pendant ce temps-là.
Non, ce qui m'intéresse, c'est comment toi, tu regardes, tu observes, pas lui spécifiquement, mais le business du... Le business de la spiritualité, on va dire, ou le business du bouddhisme quasiment, parce que le yoga et la méditation, c'est devenu un business.
Oui. Bah, c'est sûr qu'il y a 40 ans, ça faisait un petit peu peur.
Ouais.
En disant, waouh, non, c'est quoi, c'est exotique, ça vient d'où? Et donc, on est passé de quelque chose qui faisait peur à quelque chose qui est too much.
Oui.
C'est-à-dire que n'importe qui va faire un stage de méditation pendant un week-end, revenir avec une certification et après être enseignant de méditation ou formateur ou donner des conférences parce que la personne a fait 10 jours de vipassana et tout ça. Donc tu dis, ça paraît complètement improbable. C'est pas, si j'allais passer un week-end pour apprendre la médecine, je ne ferais pas une conférence en disant que je suis médecin. Donc, on regarde ça quand je dis « on », c'est des personnes qui sont vraiment impliquées, donc, notamment les maîtres tibétains. Quand ces maîtres, on en discute ensemble, ils me disent « mais qu'est-ce que vous avez fait de notre... » Ouais, de notre enseignement en Occident, comment vous l'avez transformé, dénaturé, vous l'avez rendu un peu, voilà, business et compagnie. Donc souvent, les maîtres tibétains, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Et donc, c'est intéressant d'observer ça. Alors forcément, je ne vais pas dire que ça me réjouit. Je peux avoir de temps en temps une forme de colère en disant, mais c'est quelque chose de tellement précieux. Ces maîtres tibétains que je côtoie et que je traduis de temps en temps ont passé 25 ans à méditer dans les grottes de l'Himalaya. Wow. Et j'ai reçu ça en tibétain pendant ma retraite, avant, pendant et encore maintenant. Et tu vois des gens qui sont venus un week-end écouter ça, qui retransforment, qui modifient les paroles. Et je me dis, mais c'est tellement difficile, nous, en tant que lama, de retransmettre l'essence de ces enseignements. C'est quelque chose, c'est la chose la plus précieuse que j'ai reçue, tu vois. Et donc, d'essayer de transmettre, partager, mais sans jamais dénaturer, tu vois, avec authenticité, avec humilité. Et de voir que c'est sur la place publique, vendu à des prix exorbitants et il y a beaucoup de n'importe quoi, tu dis waouh!
Et alors, on devient nécessairement lama après ces 3 ans, 3 mois et 3 jours de méditation, où il y a une sorte de diplôme? Comment ça fonctionne?
En général, oui, les personnes qui font cette retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours, c'est une retraite traditionnelle, telle que c'est enseigné au Tibet à l'époque, telle que c'est enseigné maintenant dans certains pays d'Asie et d'Europe et à travers le monde. Mais c'est un programme très strict, régulé. Il y a des maîtres ou un lama en particulier qui vient régulièrement dans le centre de retraite dérouler le programme, on lui fait aussi des retours, mais il y a toute une évolution. Donc on n'est pas lâché dans la nature en disant on ferme les portes et dans 3 ans, salut, au revoir. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est hyper encadré et avec un protocole strict. On dort assis la nuit pour garder la concentration de la journée.
Oh, wow.
Donc, on médite la journée dans une caisse de méditation en bois, donc d'1 mètre carré. Et donc la journée, il y a une planche pour poser les textes tibétains. Et D'accord. La nuit, on retire la planche et on remplace la planche par une couette. Et on reste dans cette même posture, assis, en tailleur. Et on dort, on essaye, entre guillemets, de dormir. Mais c'est pour vraiment garder cette clarté, cette lucidité de la journée. Donc, on est quasiment H24 assis en méditation pendant 3 ans.
C'est important, le tailleur ?
Il n'y a pas beaucoup de place, c'est 1 mètre sur 1 mètre, donc les jambes sont, on est vraiment, on peut pas étendre les jambes. Donc c'est une manière de rester, tu vois, le dos droit, d'être complètement aligné, et également de pouvoir méditer la nuit, de travailler sur les rêves. Donc le lama va nous demander, à un moment de la retraite, on va basculer sur une méditation, on appelle ça la méditation du rêve, et il va nous donner des instructions la journée qu'on va essayer d'appliquer en dormant, et d'essayer d'être actif dans nos rêves, conscient, de se dire « tiens, là, je suis en train de rêver ». Dans la journée, le lama m'a demandé de faire, de faire ça ou ça ou ça. Et c'est arriver à contrôler ton esprit tout en dormant.
Waouh.
Voilà, donc c'est toute une gymnastique. Ouais. Et il y a plein de sortes de méditations différentes. Et c'est presque comme... comment tu peux contrôler ton esprit presque jusqu'au moment même où tu vas mourir. C'est-à-dire, il y a même des méditations qui te préparent au moment où, par chance, c'est un moment où tu peux...
Tu peux méditer.
Méditer, comme le font certains grands maîtres avant de partir. Mmh. Tu vois qu'ils s'assient en méditation, ils savent que c'est le moment où ils vont mourir. Et ils partent en méditant, en gardant l'esprit avec une clarté incroyable. Et souvent, ils restent assis en méditation pendant plusieurs jours après leur décès. Et le corps reste assis. Et à un moment donné, au bout de quelques jours, on voit que le corps commence à s'affaisser. Et c'est que la méditation s'est terminée. Mais pendant plusieurs jours, on les voit vraiment en méditation. Et le corps ne bouge pas du tout. Et...
Comment on explique ça ? Enfin, comment ça se fait que le corps... parce que les muscles...
Oui, mais il y a une forme de... Est-ce que tout est justifié par la science ? J'en sais rien. Est-ce que tout repose sur le corps ? J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois énormément dans la force de l'esprit. Oh. Et pour l'avoir vu, plusieurs de mes maîtres, au moment où ils sont partis, je me suis rendue en Inde, dans les monastères. Et quand tu rends hommage à ton maître et que tu le vois assis en méditation pendant plusieurs jours comme ça, et avant personne ne le touche, et il y a une forme de respect, il y a des rituels autour de lui, devant lui, etc. Et tu vois la personne, le maître en posture de méditation droit, comme s'il était encore là.
Ouais, bien sûr, c'est surtout, c'est un ensemble,
c'est impressionnant.
Ça veut dire quoi d'être lama, qu'est-ce que ça implique d'être lama ?
Alors, lama, ça veut dire enseignant du bouddhisme tibétain. C'est un titre religieux qu'on obtient en sortant de retraite. Ça implique quand même, je dirais, une forme de responsabilité. C'est-à-dire, tu as travaillé sur toi, on t'a transmis les plus beaux enseignements, ce qui était les plus précieux et millénaires des enseignements qui viennent de l'époque du Bouddha, il y a plus de 2500 ans. Et tu es un peu garant de ces enseignements du Bouddha. Donc, tu ne peux pas être à la fois garant d'enseignement et en même temps faire n'importe quoi dans ta vie.
Bien sûr, oui.
Donc, pour moi, il y a une forme de rappel quotidien. Tu dis, OK, j'ai reçu ça et j'ai médité sur la bienveillance ou on m'a enseigné la bienveillance. Mmh. Est-ce que dans mon quotidien, je suis bienveillante ? Est-ce que j'étais bienveillante en
répondant à telle personne ?
Voilà, etc. Est-ce que de se comporter comme ça, c'est un bel exemple ? Et donc, c'est sans penser aux autres, mais pour soi, de se dire, mais est-ce que je mérite encore mon titre ? J'ai les enseignements en moi, mais il faut que ça rejaillisse à l'extérieur. Si c'est juste à l'intérieur, et c'est juste des enseignements que tu as à l'intérieur de toi. Mais pour moi, il faut qu'il y ait quand même un rayonnement à l'extérieur. Donc, quand tu vois Mathieu Ricard, tu sens qu'il a intégré les enseignements qu'il a reçus depuis 40 ans, parce que ça rejaillit sur son regard, sur ses actions, sur son quotidien, sur sa manière de parler et d'être proche de ses maîtres tibétains. Quand tu les traduis ou quand tu es proche d'eux, du Dalai Lama ou d'autres, y a pas besoin de parler, parce qu'ils incarnent ce qu'ils ont à l'intérieur.
Ouais. Et pour les gens qui nous écoutent, qui cherchent une forme d'équilibre de vie, d'harmonie, moi j'aime bien l'harmonie, mais je ne sais pas si c'est des conseils encore une fois, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire ?
Mais de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire du temps, alors pour soi, mais pas d'une manière égoïste, mais du temps de réflexion, de contemplation. Je trouve que plus on grandit et moins on s'émerveille. On perd cette notion d'émerveillement. Un enfant, tu le mets devant une vitrine, il est moustillé, waouh, incroyable, ou tu lui donnes n'importe quoi, un ballon, il est, voilà. Et je trouve que nous, en tant qu'adultes, plus on grandit et moins on a cette forme d'émerveillement. On perd cette âme, on pourrait dire un peu cette âme d'enfant, tu vois.
Bien sûr.
Et je trouve que c'est d'une tristesse quand même. Pourquoi un adulte ne devrait plus s'émerveiller de se poser, de regarder le coucher de soleil, d'être émerveillé par la beauté du monde, la beauté des choses, la beauté d'une odeur, la beauté d'un tableau, d'une musique, d'un son. Et on ne se pose plus pour observer cette beauté et se nourrir finalement de la beauté, se nourrir de l'émerveillement.
Et si on a cassé le jouet à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'en fait on n'est plus capable de s'émerveiller, c'est-à-dire qu'en fait on ne voit plus les choses. Est-ce que la méditation peut aider pour se reconnecter avec ça? Parce que parfois, il y a des gens, tu vois, ils ont tellement vu de coucher de soleil, ils sont tellement allés à la mer, ils ont tellement fait de resto. En fait, ils n'arrivent plus vraiment à être dans l'enthousiasme de l'expérience. Parce que c'est la vie, c'est normal.
Et c'est normal, mais est-ce qu'ils sont heureux du coup?
Ah ben c'est ça la question.
Voilà, parce que c'est facile de se plaindre, de dire je suis malheureux, ça va mal, etc. Mais qu'est-ce que tu fais pour inverser la tendance? Si tu es blasé de tout et que tu vois finalement plus que le négatif, c'est super triste quand même. et de prendre conscience de ça, je pense que tu peux rien modifier si tu prends pas conscience. Pour prendre conscience, il faut prendre du temps. Et à quel moment dans la journée tu vois quelqu'un te dire tiens, je m'accorde 3 minutes? En général, les 3 minutes, c'est pour aller fumer, passer un coup de fil.
Ou être sur Instagram.
Voilà, ou les réseaux sociaux. Donc voilà, donc tu te dis, c'est presque, c'est pas naturel de prendre du temps pour soi. Et je trouve que c'est dommage. Donc forcément, si tu prends plus de temps pour toi, tu vas aller dans le temps et plus tu vas être déconnecté de toi. Déconnecté de tes émotions, de la vraie vie, du ressenti, des choses simples, du bonheur, des petits moments de bonheur. Et pour moi, qu'est-ce que le bonheur? C'est un enchaînement où c'est plein de petits bonheurs, plein de petits moments heureux, mis bout à bout, qui font que voilà, tu as passé une bonne journée et c'est ça le bonheur. Mais c'est pas, le bonheur, ce n'est pas quand je serai à la retraite à 60 et quelques années, avec mes petits-enfants et à tricoter. Enfin, je veux dire, mon bonheur, il est quotidien. Et chaque soir, avant d'aller te coucher, tu pourrais dire, tiens, aujourd'hui, mes moments de bonheur, c'était ça. Et de les lister, d'avoir ces moments de gratitude, de reconnaître ça. Donc, bien sûr, la méditation, elle peut aider à ça.
Et la gratitude, c'est un élément essentiel, parce que c'est ce qui nous permet d'être heureux. Et en fait, j'ai entendu un psychologue spécialisé sur la gratitude qui expliquait qu'en fait, de manière naturelle, notre cerveau, il est ingrat. C'est-à-dire qu'en fait, la gratitude, on en parle beaucoup, un peu partout, mais ce n'est pas une inclinaison naturelle du cerveau. Le cerveau, il est fait pour être plastique, pour s'adapter, mais s'adapter souvent dans le moins bien. Et quand ça va mieux, il s'adapte aussi. Mais du coup, on ajuste son niveau de confort, on ajuste son niveau de tout.
C'est ça.
Avec ce qu'on a. Donc en fait, on n'arrive plus à être vraiment dans la gratitude, puisqu'on observe au microscope tout ce qui ne va pas. Et on ne regarde plus trop, avec beaucoup de recul, tout ce qui va bien.
Exactement.
Et on voit ça tous les jours.
Bien sûr. Mais quand tu prends du recul en méditant, souvent, je compare une des méditations, j'appelle ça un peu la montgolfière. C'est-à-dire, imagine, tu fermes les yeux et tu imagines que tu montes dans une montgolfière et tu prends de l'altitude et tu regardes au sol tes problèmes, le quotidien, les obstacles, les difficultés, les souffrances, etc. Mais plus tu vas t'élever et plus ça va être tout petit. Au début, tu vois comme un gros rocher au sol et plus tu vas t'élever, plus ça va être de la taille d'un petit pois. Et de rester dans cette forme de prise de recul, prise de hauteur, et de regarder finalement ta vie sous différents angles ou vraiment avec une forme de légèreté. Et tu restes comme ça quelques temps et après tu redescends. Et quand tu redescends, mais finalement tu vas voir que tu peux prendre tes difficultés ou ton quotidien sous divers angles.
Ouais,
quand tu es confronté que tu as un espèce de gros rocher énorme sur la route, tu dis comment je vais contourner le rocher, à droite ou à gauche? Mais quand t'as pris de la hauteur, tu dis waouh, en fait, c'est juste un petit truc où je peux passer par là, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux découper en petites parties, voilà, et gérer chaque petite partie du rocher et chaque problème, et ça ira, ça sera plus facile. Donc je pense que les gens, ils prennent pas de ce temps pour prendre de la hauteur, et c'est quand t'es dans cette forme de prise de recul que t'es dans cette gratitude. De dire waouh, ah ouais, mais quand j'observe ma vie, quand j'observe mon quotidien, mais il y a quand même du positif. Et j'ai passé une super année où j'ai passé des moments difficiles, mais dans les moments difficiles, il y a eu ça de positif. Dans cette journée qui était extrêmement difficile, j'ai quand même eu un sourire dans le métro, un regard d'un enfant sortant de l'école. Il y a des moments comme ça, mais on les voit plus.
Non.
On les voit plus. Donc quand tu prends du recul et que tu fais un bilan de ta journée, tu dis, tu te rappelles, ah si, mais aujourd'hui dans le métro, il y a quelqu'un m'a souri, ou j'ai souri à une personne âgée, et j'ai l'impression que je lui ai transmis quelque chose. Et ben rien que ça, tu t'endors avec des choses positives, des moments de gratitude.
Il faut les célébrer.
Bien sûr.
Est-ce que dans l'adversité, je ne sais pas si tu as un exemple dans ta propre vie, je pense que oui, j'ai entendu ça par ailleurs, mais un moment de grosse adversité où la méditation, tout ce travail que tu as fait sur toi, a pu t'aider également?
Alors, dans les textes tibétains, on dit « plus tu médites, souvent, et plus tu es confronté à des obstacles. » Un peu comme un test pour voir si ta méditation est stable et solide. Ah. Et c'est intéressant parce que moi, ma vie, elle est complètement chaotique, avec des difficultés dans tous les sens.
Alors qu'on pourrait penser l'inverse, tu vois, oui. Dalai Lama. On pourrait se dire, forcément, elle est d'une sagesse infinie, rien ne l'atteint. Est-ce que tu dis ça?
Non, à l'intérieur, oui. Mais sur le chemin, tu as des cailloux, des obstacles, de la jalousie, des égos des uns et des autres. En tant que femme, c'est pas non plus toujours la voie, la porte n'est pas toujours grande ouverte. Hein, donc il faut aussi se faire une petite place dans cet univers de spiritualité. En tant que femme, lama, maman, productrice dans les médias, conférencière. Donc tu dis, ouais, elle est un peu, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis donc je mène un peu ma route en parallèle.
Bien sûr.
Et sur cette route en parallèle, c'est pas comme si je vivais dans un monastère où tout est t'es nourri, logé. Oui. Les gens viennent le week-end en stage, ils se prosternent devant toi parce que t'es lama, tu fais ton enseignement, t'as ton offrande et tu te soucies de rien. Donc ça, c'est la plupart de mes collègues qui ont fait la retraite avec moi sont comme ça. Mais quand tu décides de repartir dans la vie active étant lama et de dire moi j'ai envie de transmettre les enseignements que j'ai reçus, mais de les transmettre d'une manière moderne, avec des mots simples, d'aller en entreprise, d'aller, tu vois, de Décathlon, LVMH, Thalès, etc. D'aller transmettre la méditation ou ou mon parcours, ou un point de vue optimiste, passionné, je ne sais pas, en entreprise. Tu te dis, sur le chemin, c'est peut-être moins facile que pour d'autres. Mais en même temps, c'est un excellent test. C'est-à-dire, OK, face à cette jalousie des uns et des autres, ou face à cette agressivité, ou face à la colère de si, ou face à des mots pas gentils sur les réseaux sociaux, comment je gère? Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais à l'intérieur, mais ça glisse sur moi. C'est-à-dire, je trace ma route. Et OK, ça, c'est dur, mais je me relève. Et là, c'est dur, mais je me relève et je continue. Et en fait, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est un challenge du quotidien. On pourrait se dire, mais les lamas, c'est le monde des bisounours, tout va bien. Non, oui. Non, je ne vis pas dans un monastère, je ne suis pas nourrie, logée, blanchie, avec des sponsors qui sponsorisent ma spiritualité à vie, du tout.
Bien sûr. Et même comme ça, ce ne serait pas facile, j'imagine.
Non, mais bon, quand je vois mes collègues qui sont restés après la retraite au monastère, et quelque part, tu es à la merci de la société. C'est-à-dire que tu es... T'as pas cette forme de liberté de dire, tiens, je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça, je peux avoir un enfant, je peux être capable de l'élever seul, et etc. Donc, du coup, ouais, y a une forme de sécurité quand tu restes au monastère. Mais c'est pas ce que j'ai cherché. C'est pas ce que j'ai voulu. Je suis très contente de ce parcours-là.
C'est ton âge aussi, peut-être, parce que 19 ans,
c'est... Oui, j'avais 19 ans quand je suis sortie de retraite.
C'est jeune. Ouais. C'est jeune. Et donc, t'as un exemple, peut-être, de... moment de gros cailloux dans la chaussure où la méditation a pu t'aider à traverser?
Alors, j'en ai plein.
Tu en prends un, peu importe.
J'en ai plein. Mais c'est vrai que quand ma fille était petite, quand elle avait 2 ans, son papa a eu un AVC. Il était caméraman sur un plateau et en portant un flight case ça, en portant sur l'épaule, ça a compressé l'artère et du coup, il est tombé sur le plateau. Oh. Et du coup, il s'est retrouvé entre la vie et la mort pendant 11 mois. Donc, le jour où les assistants réalisateurs m'ont appelé en disant « Tiens, il s'est passé ça avec le père de ta fille, il est tombé, on vient de le transporter à l'hôpital, et, etc. » quand tu vois les médecins qui te disent « A priori, il va partir d'ici 24 à 48 heures », et puis après, on me dit « En plus de l'AVC, il y a un hématome qui se crée, donc voilà, il est en train de partir, qu'est-ce qu'on fait ?» Dans ces moments-là, tu te retrouves avec 8 médecins. Et plutôt qu'être dans l'agitation, les pleurs, les cris, etc., et quand on demande à toi de prendre la décision, moi, mon premier réflexe, c'était de fermer les yeux et de ne pas prendre de décision sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de l'affect, de la stratégie, mais si je fais ci, il va se passer ça. J'ai dit au médecin, est-ce que vous m'accordez quelques secondes? Et je me retrouve dans une petite pièce avec 8 médecins qui me regardent, j'ai les yeux fermés. Et je me dis, qu'est-ce qui va être le mieux pour lui, pour notre fille et pour la vie en général? Et finalement, de méditer, ça permet de détacher des émotions, t'entends la famille qui pleure dans le couloir, machins. Et tu dis, OK. Et finalement, tu penses à rien. Tu cherches pas une solution, tu médites, tu t'apaises. T'apaises ta respiration, tes émotions. Et quand tu reviens... Et ben, l'idée, c'était, OK, on tente le tout pour le tout, on enlève la boîte crânienne, on fait ci, on fait ce qu'il faut faire. Oh. C'était une opération très lourde, il pouvait y passer pendant l'opération ou se réveiller en parlant avec les paupières. Donc, une décision lourde à prendre. Mais en même temps, je sais que je ne l'ai pas prise avec le mental, je l'ai prise avec autre chose que le mental. La profondeur, l'esprit, la spiritualité, peut-être quelque chose de plus haut ou plus fort ou plus grand que moi. Et j'ai pris, je pense, la meilleure des décisions. Mais dans ces moments-là, je pense que c'est vraiment ça qui aide. Mmh. C'est-à-dire d'être agité et tout. Tu perds les moyens, tu ne sais pas quoi faire, tu es en panique. Je sais, et cette expérience, elle s'est renouvelée, mais X fois dans ma vie. C'est dire, OK, c'est compliqué. Je m'apaise. Si je suis sereine à l'intérieur, si je suis posée, je sais que je prendrai la meilleure décision. Mais je ne vais pas l'apprendre avec le mental, je vais l'apprendre avec autre chose.
Un autre sujet qui m'intéressait, mais voilà, c'est la position des femmes dans la religion bouddhiste et le fait d'être une femme occidentale, lama de 19 ans.
Oui.
Donc c'est tout ça qui... Donc tous ces mots-là, occidentale, pour les bouddhistes c'est compliqué, lama pour les Européens c'est compliqué.
Oui.
De 19 ans, plus une femme, c'est compliqué. Et femme bouddhiste aussi. Donc, je serais curieux de comprendre. D'abord, la relation plutôt la condition des femmes dans la religion bouddhiste. Et puis aussi, toi, le fait d'être une femme lama bouddhiste de 19 ans, tout ce que ça a pu impliquer dans ta vie.
Alors, c'est sûr que quand on est sorti de retraite... Il y avait deux centres de retraite, un pour les femmes et un peu plus loin dans la forêt pour les hommes.
D'accord.
Donc on entre le même jour et on sort le même jour. Et trois mois après, on se retrouve pour la plupart tous en Inde pour des grandes cérémonies au monastère, dans un monastère à côté de Darjeeling. Donc on arrive tous avec, entre guillemets, le titre de lama, les hommes et les femmes. Et parmi les retraitants, il y avait quelques couples, les deux Américains, les deux Polonais, les deux Argentins. Donc, on arrive tous, pour la plupart, en Inde. On est accueillis dans le monastère qu'avec des moines. Et donc, le supérieur du monastère nous demande de nous installer. Et très vite, je me rends compte que tous, entre guillemets, nos collègues ou les maris de mes copines
ouais.
se trouvent au premier rang avec les lamas du monastère, donc tibétains, bhoutanais, sherpas, népalais. Et nous, en tant que femmes... Lama, on se retrouve au dernier rang avec les vieilles nonnes ou alors avec les personnes âgées du village, les tibétaines âgées, avec leur moulin à prière, illettrées. On est tout de suite séparés. Donc, la première session se passe comme ça. Donc, nous, on n'a pas de texte, on n'a rien. On est là pour suivre un mois de cérémonie. On voit nos collègues les maris des copines, premier rang, assis sur des trônes, bien en hauteur. Ils sont servis le thé, le machin et tout. Et nous, on est avec les illettrés et les personnes âgées du village. Ouais. Ça dénote assez. Donc, je dis à mes copines, on va quand même pas, on n'est pas, on n'a pas traversé le monde. Enfin, je veux dire, on n'est pas venu en Inde pour rester un mois comme ça au fond du truc. Regardez les garçons s'éclater, entre guillemets, ouais. Parce que moi je suis un peu cash, assez rebelle, et parlant tibétain, ça peut aider, j'étais un peu le leader du groupe. J'étais la seule à parler tibétain. Et mes copines ont dit, bah non, c'est la tradition, c'est comme ça. Je dis, non, ça va pas le faire. Donc moi, dès qu'il y a eu une pause, j'étais voir le supérieur du monastère, j'ai dit, non, mais nous en Occident, les femmes et les hommes sont identiques, ils sont lamas, on est lamas. On a le même titre, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est illettrées. On a fait exactement la même retraite, le même programme. On a dormi assises, comme les garçons qui ont dormi assis. Et parlant tibétain, je mâche pas mes mots en général. Un peu dans le débat, un peu dans la confrontation. Et la session d'après, effectivement, femmes et hommes, on était tous au premier rang, mélangés. Les couples étaient hommes et femmes l'un à côté de l'autre. Et c'était une première au monastère, ce qui ne s'était jamais fait en 40 ans, où normalement, depuis 40 ans, c'était les lamas avec les femmes illettrées au fond. Et j'ai fait un petit peu cette révolution en 92 en sortant de retraite. Et donc, c'est vrai que maintenant, à chaque fois que des occidentales lamas arrivent au monastère, elles sont accueillies au même titre que les hommes. Donc, il y a eu une forme d'avant et d'après. Mais après, après, le travail n'est pas terminé, c'est encore long. Et c'est vrai qu'en Occident, quand on voit dans les médias, quand on doit parler de spiritualité, de sagesse, de bouddhisme, d'enseignement, en général, sur les plateaux, on voit plus des hommes que des femmes. Si on te parle de sagesse, tu as plutôt l'impression de penser à un maître tibétain ou un moine avec le crâne rasé qu'à une femme blonde avec les yeux verts et des talons.
Oui, oui, c'est vrai.
Donc, tu vois tu vois beaucoup Mathieu Ricard, tu vois Christophe André, tu vois Frédéric Lenoir, etc. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, on est très très peu invitée pour parler. Alors, est-ce qu'on est moins crédible? Est-ce que j'en ai absolument aucune idée? Mais tu dis, waouh, le chemin est encore long. C'est pas parce qu'on est en 2024 que tout est acquis et que l'égalité des sexes est là et qu'on est en France et que c'est facile du tout.
Donc en fait, là, ce que tu dis, d'une certaine manière, c'est qu'il y a du sexisme des deux côtés, finalement. C'est-à-dire qu'il y a du sexisme dans la culture bouddhiste, et puis il y a du sexisme aussi en France, et on est bien au courant.
Oui, je pense que c'est même au-delà du bouddhisme, c'est presque une culture, c'est une culture asiatique. Mais pas que le bouddhisme, on voit qu'en Asie, tu vas au Japon, tu vas en Thaïlande, en Inde, les hommes et les femmes indiennes, ils n'ont pas vraiment la même position.
Pas vraiment.
Donc voilà, je pense que c'est plutôt une culture, on va dire, asiatique, même si on essaye de faire changer les choses. Mais nous, au-delà de la culture, il y a la culture et la spiritualité ou la religion. Donc c'est un tout qu'il faut faire un petit peu bouger. On y vient, mais il y a encore du chemin. Je pense qu'il y a encore du chemin.
Quel regard tu portes sur le monde actuel, qui est en polycrise, en réalité? Je suis curieux de voir, parce que moi, je crois que le rôle de la foi, pardon, a un rôle important. La foi, qu'elle soit religieuse, dogmatique ou spirituelle, simplement. Et qu'on n'a plus ce cadre-là. Et en réalité, on n'a plus trop de cadre. Parce qu'il y a eu un cadre capitaliste à un moment donné, mais qui n'a pas vraiment rendu ce qu'il était censé rendre pour les individus. Donc, je serais curieux de comprendre comment toi, tu regardes le monde aujourd'hui, avec toutes ces polycrises, avec la montée de l'extrême droite un peu partout, avec la crise écologique. Comment tu observes ça?
Moi, je trouve que c'est presque une crise intérieure. Ça rejaillit sur l'extérieur, mais je sens une forme de mal-être, je pense qu'on a vraiment pu se rendre compte de deux choses pendant le Covid, ou de deux états, ou deux états d'esprit. C'est-à-dire que les conscients, les personnes qui avaient conscience des problèmes écologiques avant le Covid, ou d'être conscient de prendre soin de soi, ou de méditer, ou etc., ou d'avoir une hygiène de vie, je pense que les personnes conscientes, la crise du Covid ou le confinement, bah, ça n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire, bah, les conscients, ils restent conscients. Et c'est comme s'il y avait eu un fossé entre les personnes qui étaient un peu inconscientes ou insouciantes avant, mmh. et en disant on attend le monde d'après. Mais je trouve que ça n'a pas éveillé ces personnes qui étaient dans cette forme d'inconscience ou d'égoïsme, mmh. en disant on attend le monde d'après. Le monde d'après, il n'est pas arrivé. Enfin, j'ai pas vu une grosse différence. Et c'est comme si les conscients sont toujours aussi conscients, mais les inconscients ou les égoïstes, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un espèce d'élan. La plupart, c'est tiens, je vais même acheter une maison à la campagne, vite, 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 au cas où si on est reconfiné, ou vite, 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 je reprends des billets d'avion pour repartir en week-end, si on était reconfiné, ben, au moins je vais profiter. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu ce monde d'après, ce qu'on pensait vraiment, qu'il y aurait eu un changement ou un déclic. Après, je pense que je garde quand même ce côté hyper optimiste. Je suis optimiste, mais dans l'action. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire, tiens, le monde ira mieux demain. J'essaye d'être dans l'action, j'essaye de transmettre à travers les conférences des messages d'écologie. Tu vois, je raconte mon parcours, donc forcément, le côté végétarien, je parle de bienveillance, d'amour, d'ouverture d'esprit. Mais la bienveillance, ce n'est pas simplement envers soi. C'est aussi envers les autres, pas qu'envers les gens qu'on aime, envers les êtres humains, envers les animaux, la planète. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de transmettre les enseignements que j'ai reçus pour essayer d'ouvrir un tout petit peu les esprits. Et souvent, on me dit, ah oui, la bienveillance, c'est pas que pour soi. Ah, la bienveillance, ça peut s'appliquer aussi à la planète. Ah bon ? Et donc, voilà, l'idée, c'est de partager ça, cette forme d'optimisme. Mais c'est pas évident. Et puis les choses, elles bougent doucement. Je vois que de nombreuses sociétés essayent de bouger des choses, mais très souvent, je trouve que la motivation est pas juste. Je trouve que c'est pour une espèce d'image marketing. On va faire plus vert du machin, un peu. On va rendre l'image plus lisse, on va faire un peu plus de green. Mais il n'y a pas une vraie cohérence. Quand tu grattes vraiment, c'est... La motivation, elle n'est pas là, elle n'est pas juste. On change parce qu'il faut changer et que les lois nous demandent de changer ci ou ça, ou de ne plus faire de bouteilles en plastique et de mettre des carafes à la place. Mais est-ce que la motivation profonde, elle est sincère, elle est authentique ? J'ai vraiment du mal à trouver des choses ou des entreprises solides.
Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a trois niveaux de... Je ne sais même pas comment dire. Par rapport à l'information, on va dire, il y a trois niveaux de conscience. Il y a savoir. Bon, il y a plein de choses qu'on sait. Par exemple, les débats climatiques, la biodiversité, etc. On est tous au courant, je pense, plus ou moins, mais enfin quand même. Après, il y a comprendre, qui est une autre phase et qui demande de la réflexion et de s'intéresser vraiment au sujet en profondeur. Et déjà là, je pense qu'on a perdu beaucoup de monde. Et puis après, il y a intégrer dans le cœur, c'est-à-dire comment j'intègre. Et la question que je me posais, c'est comment tu fais pour aider les personnes à plus intégrer et pas juste rester en superficialité, d'un point de vue superficiel, c'est-à-dire de savoir, mais bon, comprendre, c'est moins ton rôle, je pense, mais ça dépend sur quoi, mais il y a plein de manières de comprendre, il y a tellement de documentaires, de livres, etc. On peut comprendre, on a les moyens de le faire. Mais surtout d'intégrer. Il n'y a pas besoin d'intégrer 15 000 choses, comme disait Marion, juste 3-4 trucs qui sont importants. Comment tu les aides à faire la différence entre savoir, comprendre, intégrer, et comment tu les aides à intégrer ?
Moi, je pense que savoir, ça reste dans la tête, tu vois, dans le côté mental. Et tant que ce n'est pas vécu, ressenti dans le cœur ou dans tout ton être, tu n'auras jamais de fortes convictions. Tu sais qu'il faut faire attention, tu sais qu'il faut trier ici, tu sais que la planète est comme ça, tu sais que manger moins de viande, ça serait mieux, tu sais que prendre moins l'avion, ça serait mieux. Mais ça reste d'ordre de la tête, c'est juste, voilà, c'est, on va dire, tant que t'es pas concerné dans ta chair, je trouve que les gens, ils mettent pas vraiment en action. Parce que de mettre en action, ça te demande des efforts, de prendre sur toi, de mettre plus de cohérence dans ta vie. Tu vois, souvent, je donne une conférence qui s'appelle « La bienveillance, c'est bien, la cohérence, c'est mieux ». Donc, je parle de cohérence, comment mettre un peu plus de cohérence dans sa vie, à travers le corps, la parole, l'esprit, etc., etc. Et souvent, les gens me disent « Mais c'est dur d'être cohérent ». Tu vois, tu peux enseigner quelque chose où tu dis à tes enfants, fais attention à ci, fais ça, ou pas, fais pas ci, fais pas ça, mais si toi-même, tu le fais pas, t'es pas cohérent. On voit, par exemple, autour de nous, dans le monde des conférenciers, des conférenciers qui parlent d'écologie sur scène et tout, mais qui arrivent sur scène avec une bouteille d'eau en plastique à la main. Tu dis, comment tu peux passer un message sur l'écologie et, voilà, avec une bouteille de plastique à la main? C'est incohérent.
C'est sonnant.
Où tu vas donner une conférence à l'autre bout du monde pour 25 personnes, mais tu vas en jet privé pour aller parler d'écologie. Et donc, c'est vrai que cette incohérence, elle me frappe. Donc, tant que tu n'as pas intégré que tu c'est pas du vécu et que c'est pas, ça ne résonne pas en toi, je ne sais pas si le monde il va vraiment changer ou bouger tant que tu n'es pas frappé dans ta chair. Et je pensais que le Covid, avec le confinement, on aurait tous été frappés dans notre quotidien, dans le cœur, et que tout le monde allait passer du mental et que ça allait descendre dans le cœur en me disant, bon, bah, pendant 70 jours, tout le monde a eu le temps de se poser, de réfléchir, d'intégrer, de changer sa vie, son point de vue, son alimentation, son mode de fonctionnement, d'être moins égoïste et de se dire, on y va tous ensemble là, vers une responsabilité collective. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas descendu jusqu'au cœur. C'est resté à la superficie avec, tiens, je vais faire un apéro en visio, je vais faire un FaceTime avec je sais pas quoi, je vais faire un tuto. et on était que dans les tutos, les machins, ils étaient tous en train de faire du sport avec la vidéo, les écrans. Et je me dis, mais en fait, c'est même pas descendu, quoi. On a donné la chance à la Terre entière, à la planète, aux 7 milliards d'êtres humains, que ça descende un peu jusqu'au cœur, et c'est resté dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Comment on va faire? Est-ce qu'on réoriente notre entreprise, notre structure, et en fait, on n'a pas eu le temps. Enfin, les gens n'ont pas réfléchi. J'ai l'impression qu'on a vraiment perdu. C'était, pour moi, c'était la chance, entre guillemets, parce que j'ai vécu ça comme une
opportunité.
Ouais, c'était magnifique, une retraite. J'ai trouvé ce moment sublime avec la nature qui revit, les animaux partout. C'était voilà. Et je me dis, mais en fait, c'est resté, c'est stocké là et c'est pas descendu dans le cœur. Et c'est dommage. C'était dommage. Une opportunité incroyable.
Merci beaucoup, Armel. C'était super intéressant.
Ben, merci à toi.
Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
J'aimerais ouvrir la porte sur 2024. Et claquer la porte sur 2023, qui a été une année chaotique. Même si je reste debout et qu'avec le sourire et cette forme de légèreté, de joie et d'optimisme. Mais j'ai vraiment envie d'ouvrir la porte sur 2024.
Tu penses qu'elle sera moins chaotique?
Ouais. Oui, je pense que le pire, c'était vraiment chaotique. Donc là, je la ferme. Et à double tour, avec des cadenas, des clés, des doubles clés, des verrous, tout ce que tu veux. Un code secret, je te donne le code, tu ne me rends pas le code. Donc bienvenue 2024, et que la porte s'ouvre pour tout le monde.
Bon, bah, j'espère que
tu
as raison.
Pas que pour moi.
J'espère que tu as raison.
J'espère, on fera tout pour.
Merci beaucoup.
Merci à toi, merci infiniment.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !